Premier service. Deuxième service. Du lundi au vendredi, de 12h à 13h à 18h. Invité, reportage, chronique, invité et musique. Reportage, chronique et musique.
Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à Damien Fourcault qui réalise cette émission. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine, et comme à notre habitude, on devrait pouvoir entendre et écouter Thomas Voirchek, chroniqueur jeu depuis quelques semaines à Jet FM. J'utilise le conditionnel puisque Thomas est actuellement dans les transports en commun. Il y a des perturbations ce lundi, donc on l'attend, il ne devrait pas tarder. Nous serons donc en direct avec Thomas. Et puis, deuxième temps enregistré il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, en fin de semaine dernière, une conversation à propos d'art contemporain avec Romain Boulet et Sandra Doublet de MPVIT. MPVIT est une structure de promotion de l'art contemporain et des artistes contemporains qui ont invité pour ce moment de radio Pierre Labatte. Pierre Labatte qui propose au Blockhaus du Hub Studio rue Jean-Simon de Veruze à Nantes, eh bien, une exposition sur l'un des murs du Blockhaus, mais côté extérieur, une exposition intitulée, une installation plus exactement intitulée Le mélange des eaux, donc conversation à propos de cette proposition et à propos d'art contemporain après la chronique jeu. Alors comme Thomas ne devrait pas tarder, eh bien ça me laisse le temps de faire un coucou à Hugo Haribar. Hugo Haribar, c'est quelqu'un qui a œuvré sur cette antenne pendant 18 ans avec son émission de culture, magazine breton, magazine culturel breton, musical majoritairement. Eh bien, c'était la dernière de Kidu, cette émission qui a presque deux décennies sur Jet FM. C'était la dernière émission. Alors, on salue évidemment l'implication, l'engagement d'Hugo pendant toutes ces années sur Jet FM. Et puis, comme un clin d'œil, comme je le disais, eh bien, on va passer un morceau de quelqu'un qui le connaît bien, Hugo, c'est François Robin. C'est extrait d'un album des Allumés du Chalumeau. François Robin, en clin d'œil à Hugo. Et puis, on devrait revenir au jeu dans cette émission avec Thomas Voirchek. Voilà, c'était François Robin dans un album, Les Allumés du Chalumeau. Ce titre, c'est l'abonné d'ailleurs. Eh bien, il a été abonné pendant 18 ans, Hugo Haribard, avec son émission Qui dut. Et c'était donc la dernière, ce 22 juin. Voilà, donc on retrouve d'ailleurs la plupart des émissions d'Hugo en podcast sur le site de Jet FM. Je le disais au début de cette émission, eh bien, le lundi, un moment de radio est consacré au jeu. Et depuis, pas 18 ans, mais depuis quelques semaines, c'est Thomas Voirchex qui nous fait découvrir des jeux. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors, arrivé à l'instant, parce qu'il y avait quelques difficultés dans les transports en commun.
Ouais, pour une fois que j'ai fait un peu mon fainéant, je voulais pas prendre mon vélo pour venir. J'ai eu un petit problème dans le tram, mais c'est bon.
voilà, l'important c'est que tu sois là. Alors, un nouveau jeu, hein, tu as ouvert une boîte rectangulaire devant toi, et puis je vais en savoir un petit peu plus, parce que là, pour l'instant, je ne sais rien de ce que tu vas nous parler.
Oui, un jeu qui s'appelle Mascarade.
Mmh, d'accord.
On y va ? Alors, donc Mascarade, c'est un jeu de Bruno Feduti, édité par Repos Productions. Donc une boîte rectangulaire, effectivement, qui, voilà, avec assez grande, avec des grandes cartes dedans et des pièces. Il y a un peu de matériel, pas beaucoup. Voilà.
Oui, on a des petits jetons cartonnés ronds et puis des grandes cartes, effectivement.
Des pièces, un tribunal, qui est un carton qui sera au milieu de la table, et plein de cartes personnages. Alors d'abord, je vais vous parler un peu de Bruno Feduti. Parce que Bruno Feduti, c'est quelqu'un de très important en fait, dans le monde ludique français. Il est là, lui, depuis très longtemps. Il fait partie des historiques en activité du monde du jeu moderne, entre guillemets. Bruno, lui, a écrit des livres dont vous êtes le héros dans les années 80. Voilà, donc il vient de l'univers du jeu de rôle, en fait.
Ah, ok.
Et puis, il a commis un jeu, je crois que son premier jeu, ça s'appelait Baston, qui était un jeu illustré par Franck Margerin dans les années 80. Un gros jeu, je pense, qui a dû prendre un petit coup de vieux depuis. Mais il n'a jamais arrêté, en fait, depuis qu'il a commencé dans les années 80. Et son plus gros jeu connu s'appelle Citadelle, qui est pas forcément très très connu en France, mais qui est un best-seller un peu dans le monde entier. Mais il a surtout fait énormément de jeux. Je sais pas combien, mais bon, soit en plus d'une cinquantaine. Et c'est quelqu'un qui a toujours qui s'est débrouillé pour que les gens se connaissent. Il a toujours organisé. En fait, il a toujours été très généreux de conseils en fait envers les jeunes auteurs. Dont j'ai fait partie. Ouais. Il a toujours pris les gens sous son aile, et donc voilà, c'est quelqu'un que tout le monde connaît dans le monde du jeu, et qui est quelqu'un d'important, quoi. Voilà, donc là, ce jeu-là,
Mascarade,
c'est un jeu à rôle caché. Alors, on va rappeler juste ce que c'est que les rôles cachés.
Je veux bien, ouais.
Voilà, le jeu le plus connu à rôle caché, c'est Loup-Garou de Tiercelieu, donc qui est un jeu où on distribue une carte à chaque joueur et chacun a donc un personnage caché qu'il ne doit a priori pas révéler pendant la partie ou le plus tard possible ou quand ça sera le moment pour lui pour gagner la partie, etc. Voilà, donc ça c'est les jeux à rôle caché. Donc des jeux en fait assez minimalistes en général, où on a une carte personnage devant soi. Il y a éventuellement un peu de matériel supplémentaire, mais c'est vrai que ça fait partie des jeux minimalistes qui sont de plus en plus à la mode. Alors effectivement, les loups-garous étaient un peu le premier à vraiment populariser le genre, c'est-à-dire une toute petite boîte avec très peu de cartes, et pour des parties qui peuvent être longues et nombreuses.
Oui, parce que le loup-garou, on y joue, il faut être au moins 6, je crois. Hein.
Voilà, ouais, il faut être beaucoup. Là, c'est aussi un jeu de groupe. Mm-hmm. C'est un jeu qui se joue de 2 à 13. Alors c'est plutôt 13 que 12, que 2. je vous explique un peu comment ça marche. On a effectivement, comme au loup-garou, une carte avec un personnage. Il y a plein de personnages différents. Alors il y a une petite grille pour expliquer pour les premières parties, pour dire quel personnage prendre dans le jeu.
Je te les montre
un peu. Alors, c'est un univers. Là, il y a la sorcière,
la mendiante, la veuve,
l'inquisiteur, ouais. Il y a le roi, la reine, les paysans, etc.
Le tricheur, tiens.
Le tricheur.
D'accord.
Ouais, voilà. Et il y a des sous qui sont mis au milieu de la table. Au début, chaque joueur reçoit 6 pièces et une carte personnage découverte.
Ah oui, découverte, tout le monde le sait.
Voilà, tout le monde le sait au début, mais ça va changer. Là, c'est un peu l'originalité du jeu, c'est qu'au début, tout le monde sait qui est qui normalement. Mais bon, si on est 13, il faut une très très bonne mémoire. Donc on a par exemple le roi. Alors attends, je vais sortir un petit peu des cartes pour vous expliquer. D'accord. Donc le juge, je crois que au début du jeu, on met le roi, l'évêque, le juge, et puis on va mettre le tricheur, parce que quand même le tricheur, ça c'est bien de pouvoir jouer le tricheur. Voilà, donc tout le monde a sa carte devant soi, face découverte, et chaque personnage a un petit pouvoir, qui lui est propre. Certains pouvoirs sont intéressants au début de la partie, certains pouvoirs sont intéressants un peu de temps pendant toute la partie, certains pouvoirs sont intéressants surtout en fin de partie. Donc il y a des pouvoirs qu'on a plutôt envie d'avoir au début de partie et qu'on va essayer d'échanger parce que les cartes vont bouger pendant la partie.
Elles vont
se déplacer, les cartes. Okay. C'est là où, alors, c'est un jeu, Bruno Feduti est un fan de... Il est assez réputé pour faire des jeux chaotiques. Et les jeux chaotiques, c'est les jeux où on élabore des stratégies et puis patatras, il se passe des trucs pendant la partie, des événements qui font que ceux qui sont fans de pure stratégie, en général, sont assez frustrés. Parce qu'il y a une part de hasard, il y a une part d'embrouille dans ces jeux que moi j'aime parce que je trouve ça, voilà, je vais plutôt vers ça. Mais qu'il faut accepter au début de la partie.
Ouais, faut pas se trouver frustré.
Voilà. Donc les joueurs de jeux de Go en général peuvent fuir là. Donc on a, par exemple, j'ai le roi devant moi. L'intérêt du roi, c'est que à mon tour de jeu, si j'annonce que je suis roi, je pourrais gagner de l'argent de la banque. Voilà, c'est ça l'idée. L'intérêt de la reine aussi, etc. Donc une fois que tout le monde a vu les cartes que tout le monde a, on les cache. On retourne sa carte.
Mais on les garde devant soi.
On les garde devant soi, mais on les cache. Et après, à son tour de jeu, donc la partie commence, le premier joueur a le choix entre trois choses. D'abord, il peut regarder sa carte, si jamais il a oublié qui il était. Ce qui, au début de la partie, n'est pas très intéressant, mais pendant la partie, à un moment, on ne saura plus qui on est, donc ça peut devenir intéressant. Soit on prend la carte d'un autre joueur, par exemple, je prends la tienne, je prends la mienne, je les mets sous la table, et je les échange ou pas.
Ah ouais.
D'accord.
Toi seul
moi, je sais. Moi, je sais. Là, je sais plus parce que là, je le fais en parlant. Donc là, j'ai oublié. Mais je les remets. Donc, j'en remets une devant toi, une devant moi.
Et on regarde toujours pas.
Voilà. Donc moi, normalement, je sais si j'ai pris ta carte ou si j'ai gardé la mienne, si j'ai bluffé, etc. Et toi, tu sais plus. Donc toi, normalement, tu te souviens parce que tu es super fort. Tu te souviens quelle carte j'avais. Tu te souviens quelle carte t'avais, mais tu sais pas laquelle tu as devant toi.
Donc c'est embrouillant de toute manière.
Voilà. Soit la troisième possibilité, c'est d'annoncer qui on est. Ah ouais. Alors, on peut faire une annonce, on fait une annonce publique et on dit « Je suis le roi ».
Et on peut mentir, donc.
Évidemment, on peut mentir, on peut bluffer. Donc, je dis « Je suis le roi ». Si personne d'autre conteste ma position, si personne d'autre s'annonce aussi comme roi, j'applique l'effet du roi sans révéler ma carte.
Ah.
Et donc, je gagne le pouvoir du roi et de prendre 3 pièces de la banque. Sachant que le but du jeu, donc je vous rappelle qu'on part avec 6 pièces, et que le premier joueur arrivé à 13 pièces devant lui gagne la partie.
D'accord.
Donc je suis le roi, je prends 3 pièces. Si personne ne me conteste, que je le sois le roi pour de vrai ou pas. Mais si quelqu'un d'autre annonce qu'il est roi également, ou deux autres personnes, il peut y en avoir plusieurs qui s'annoncent comme roi, tous ceux qui sont annoncés comme roi révèlent leur personnage. Celui qui est effectivement roi, même si ce n'est pas celui qui a parlé dans le tour, applique son effet, donc gagne 3 pièces. Et tous ceux qui ont manifestement menti, paye une pièce au tribunal, et donc le tribunal est représenté par un carton comme ça
une tuile du
jeu qui est au milieu de la table.
Donc voilà, c'est le trésor du tribunal.
Donc voilà, on paye son écho au tribunal, donc on est condamné à payer une pièce parce qu'on a lâchement menti sur son identité. Voilà, donc voilà comment se passe le jeu. Donc les personnages sont plus ou moins, je vais vous décrire un petit peu pour que vous ayez une idée. Donc le roi gagne 3 pièces, la reine qui n'est que reine, mais qui est quand même reine, gagne 2 pièces.
Oui.
L'évêque, c'est quand même un haut personnage du clergé, mais malheureusement, c'est un clergé un petit peu corrompu. Lui, ce qu'il fait, l'évêque, c'est qu'il ramasse... Alors, il demande... Voilà ça. Il prend 2 pièces au joueur le plus riche. Okay. Il va voir le joueur le plus riche, il lui dit, il amène son petit panier, il lui demande 2 pièces, et donc il pique 2 pièces au joueur le plus riche.
Il fait la quête, quoi.
Il fait la quête, ouais. Mais c'est une quête obligatoire. Nous avons ensuite j'ai pas eu le temps de le préparer, mais nous avons le juge. Le juge permet de récolter tout l'argent du tribunal.
Ah, lui, il ramasse tout ce qui a été mis
sur le tribunal. Donc au début de la partie, il n'y a rien. Mais à force que les joueurs se trompent, mentent, etc., il va y avoir de l'argent au tribunal. Donc à un moment, c'est intéressant d'être le juge. Le tricheur permet de gagner la partie avec seulement 10 pièces d'or devant soi.
Ok, il n'a pas besoin d'aller à 13, lui.
Lui, bon. Il n'est pas obligé d'aller à 13. Ouais. Voilà. Voilà, nous avons la sorcière. La sorcière permet d'échanger tout son argent avec le joueur de son choix. Donc si on est sorcière, je prends mon pactole, donc c'est par exemple j'avais 4 pièces devant moi parce que j'ai joué comme un pied, et que toi tu as très très bien joué, et que tu as 12 pièces, donc tu es à une pièce de la victoire.
Je peux te rappeler tout.
Eh bien, je suis la sorcière, et donc je te donne mes 4 pièces, tu me donnes tes 12 pièces. Ah, ouais. Le problème de la sorcière, par exemple, c'est ça où le jeu est bien fait, c'est qu'elle permet, elle est très puissante, parce qu'elle permet de voler tout l'argent de quelqu'un. En revanche, elle ne permet pas de gagner. Parce que même si tu es au maximum, tu auras 12 pièces. Si tu as 13 pièces, tu as gagné la partie de toute façon. Donc si tu as 12 pièces, je te pique tes 12 pièces. Et une fois que j'ai mes 12 pièces devant moi, je ne peux plus gagner parce que la sorcière ne me permettra pas de gagner plus d'argent.
Donc il faudra
que je m'en débarrasse essayer de choper le tricheur, par exemple, qui me permet de gagner, ou de tomber sur un personnage qui me permet de gagner de l'argent. Voilà, donc ça, il y a 13 personnages dedans. Il y a les paysans aussi, il y a l'espionne qui permet d'aller espionner les cartes des autres. Le voleur permet de... Si on est voleur, on gagne une pièce de son voisin de gauche, une pièce de son voisin de droite. Voilà, on a les paysans. Les paysans sont intéressants parce que ils gagnent plus d'argent s'ils se trouvent tous les deux. Si j'annonce que je suis paysan et que tu t'annonces aussi comme paysan et que personne d'autre ne s'annonce paysan, on gagne chacun 2 pièces. Mais si je suis tout seul à m'annoncer paysan et que personne d'autre ose annoncer qu'il est paysan, je gagne qu'une pièce. Les paysans gagnent plus d'argent en groupe. Voilà.
Une sorte de geek, quoi, finalement.
Ouais.
Geek ludique. Ouais,
c'est ça. C'est ça. Et voilà. Et donc, ce jeu est vraiment marrant parce que, à la fois, il faut essayer d'avoir un peu de mémoire. Évidemment, c'est un jeu de mémoire un peu quand même. Il faut essayer de se souvenir qui a quoi. En même temps, on ne peut jamais suivre tout ce qui se passe. De toute façon, il y a des gens qui vont embrouiller sous la table. Donc, on ne saura jamais qui est qui. Il faut juste essayer de suivre 2-3 personnages qui nous intéressent. Essayer de repérer où est le roi. Parce que le roi, c'est celui qui rapporte 3 pièces pendant toute la partie. Donc, celui-là, il est vraiment intéressant. Essayer de contrer les gens qui bluffent, parce que des fois il y en a qui bluffent et que s'ils arrivent à bluffer, ils vont gagner la partie. Donc il faut des fois être prêt à perdre une pièce, s'annoncer. Si tu annonces que tu es roi, tu as 10 pièces, moi je vais annoncer que je suis roi aussi. Parce que si tu es vraiment roi, tu gagnes, mais si tu n'es pas roi, bah, tu vas pas gagner.
Ouais, donc y a beaucoup de possibilités d'impondérables.
Voilà, il y a pas mal d'impondérables. Voilà, pour les fans de Loup-Garou, c'est une bonne variante, c'est un autre style. C'est vraiment un autre style parce que du coup là les cartes bougent, se déplacent, etc. On peut arriver à attraper des personnages qu'on convoite. Voilà, donc c'est un bon jeu de groupe. Il y a une extension qui est en préparation. Je sais, c'est pas un jeu totalement récent, hein. Il date du début de l'année dernière. Il y a déjà une extension qui est en préparation avec plein de nouveaux personnages.
Donc ça veut dire que c'est un succès ?
C'est un succès, ouais. Ouais, ça marche bien et tant mieux parce qu'effectivement c'est un jeu vraiment, vraiment rigolo. Où effectivement, si on est dans la maîtrise, si on adore la maîtrise dans les jeux, il vaut mieux passer son chemin. Mais si on aime un vrai jeu d'ambiance, voilà, où on se fait vraiment des coups fourrés, celui-là est très bien. Ils ont mis 10 ans sur la boîte. Je pense que c'est à peu près correct. Parce qu'il faut quand même tenir compte de tous les effets différents. La première partie, on rame un peu parce que voilà, il faut se souvenir un peu
ses repères un peu.
Voilà, on prend ses repères. Il faut se souvenir des pouvoirs des personnages. Mais la deuxième partie, c'est bon, on est lancé et il n'y a pas de souci. Voilà, la partie dure 30 minutes à peu près.
Le prix, c'est quoi, 15 euros?
Non, c'est 20 euros, je crois.
20 euros,
ouais,
d'accord.
C'est 20 euros. C'est vrai que ça peut être un poil cher pour un jeu de ce type-là. Ils ont fait le parti pris d'avoir des grandes cartes.
Oui, il y a un beau matériel. Enfin,
voilà, le matériel est assez bien. Personnellement, je ne suis pas super fan des dessins qui sont un peu chargés.
Alors, je rappelle que tu es créateur de jeu, mais aussi illustrateur.
Ouais, c'est, ça. C'est ça. Donc, les dessins sont, je vais quand même citer son nom, parce que de Jérémy Masson. En même temps, bon, les dessins fonctionnent bien dans le jeu. Voilà, mais voilà, donc Repos Production distribué par Asmodée, donc dans toutes les boutiques spécialisées. Voilà, là, on n'est pas, vous le trouverez pas dans les supermarchés. Ouais. Voilà, c'est un très bon jeu de groupe, plutôt réservé à des gens qui ont un petit peu l'habitude de jouer. Bon, ça peut être pour des gens vraiment des joueurs occasionnels, mais qui sont quand même un peu joueurs, quoi. Mm-hmm. Parce que bon, voilà, il faut avoir en tête un peu stratégie. Et c'est un jeu d'opportunisme. Donc les jeux d'opportunisme s'adressent plutôt à des joueurs quand même. Mais c'est un très bon jeu.
Et la règle du jeu bien expliquée, ça va ?
Elle est bien expliquée. Il y a des choses que je vous ai pas dit pour pas alourdir, mais qui sont expliquées dans la règle.
Il y a des variantes, c'est-à-dire, c'est ça ?
Il y a un petit détail que je vous ai pas dit au début de la partie, c'est que les quatre premiers coups, les quatre premiers joueurs, donc les quatre premiers à jouer, ont pas le choix. Ils peuvent pas annoncer qui ils sont parce que on vient juste de distribuer les cartes et donc tout le monde sait qui il est. Les quatre premiers coups, on est obligé de prendre la carte d'un autre joueur, de mettre sous la table et de faire semblant d'échanger ou pas. Pour embrouiller un peu dès le début. Dès le début, à partir du cinquième coup, on a notre choix donc entre les trois possibilités que je vous ai données, donc qui sont regarder sa carte, échanger ou faire semblant d'échanger une carte ou annoncer qui on est.
Très bien, merci Thomas.
Merci à toi.
Thomas Warchex et sa chronique jeu du lundi qui nous présentait donc Mascarade, un jeu signé Bruno Fedutti. On a noté que c'était un personnage important dans l'univers ludique. Ce jeu Mascarade est édité chez Repos Productions. Ce sont des Belges, d'accord. On se retrouve une ultime fois pour cette saison radiophonique, c'est lundi prochain. Pour un dernier jeu, peut-être un jeu qu'on peut emmener en vacances, si on a la chance d'aller en vacances, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, on se retrouvera ensuite à la rentrée, mais on aura le temps d'en parler. Je mettrai les liens, comme à l'habitude, de ce jeu sur le site de JTFM. Et puis, je sais que tu œuvres dans l'univers ludique, illustrateur, créateur de jeux. Tu es le créateur de Jungle Speed.
Co-auteur
de Jungle Speed. Sur cette antenne, tu sais, on s'intéresse à beaucoup de choses. Et là, on va s'intéresser à l'art contemporain grâce à MP Vit. On va s'intéresser à une proposition signée Pierre Labatte, artiste contemporain. On voit tout ça tout de suite avec Romain et Sandra de MP Vit. À lundi prochain.
À lundi, à bientôt.
On va parler art contemporain depuis plusieurs mois. On en parle régulièrement sur cette antenne. Grâce à MP Vit. Alors MP Vit, c'est une structure qui œuvre à la promotion de l'art contemporain et qui soutient plus particulièrement la jeune création. Nous avons des rendez-vous mensuels avec l'art contemporain et puis des trimestriels également. Alors en général, les rendez-vous mensuels, ce sont des rendez-vous d'un quart d'heure à peu près. Et bien là, notre rendez-vous mensuel, on va l'agrandir un petit peu. On est dans une radio libre après tout. MP Vit est représenté ici par son fondateur, Romain Boulet. Bonjour Romain.
Bonjour.
Tout va bien ?
Bah écoute, il fait beau, ça va.
Tout à fait. Sandra de MP Vit est là également. Bonjour Sandra.
Bonjour Pascal.
Alors si on se voit aujourd'hui, c'est que il y a un artiste qui va proposer une œuvre. C'est pendant un mois, dans un lieu que tu vas nous décrire et nous désigner. Je te laisse nous présenter tout ça.
Voilà, donc en fait, depuis 2010, MP Vit propose une carte blanche à un artiste pour investir l'extérieur, l'architecture extérieure du petit blocos qui se situe quartier de la République, qui donne aujourd'hui sur le boulevard de l'Estuaire. Et donc, on a commencé en 2010 à donner une carte blanche à John Cornu. On a eu également Carole Rivalin, Michael Viala, Perrine Lacroix. Et donc, cette année, c'est Pierre Labatte qui s'y colle, qui est sans doute connu du public nantais, puisque MP Vit a déjà fait précédemment deux invitations à cet artiste dans le cadre d'expositions collectives. Donc, dans le cadre d'une exposition qui s'intitulait Specific Space, qui était présentée à l'atelier à Nantes. Et également, dernièrement, c'était au blocos DY10, donc le gros blocos qui n'est pas le même et qui se situe à côté de l'éléphant, pour une carte blanche à une commissaire que tu avais reçue justement en émission, Daniela Wagneder Stelsheimer. Et donc voilà, Pierre était invité à cette occasion dans une exposition collective.
Et Pierre Labatte est présent dans son studio. Voilà. Bonjour Pierre.
Bonjour tout le monde.
Alors, une exposition qui va se prolonger jusqu'au 20 septembre prochain.
C'est ça, tout l'été.
Tout l'été, formidable.
Et sûrement plus, parce qu'en fait, nous aussi, on est après, sur l'année.
Alors, moi, j'avais envie, peut-être que Sandra et Romain nous donnent quelques points de repère sur sur le parcours, les œuvres, l'approche artistique de Pierre Labatte. Pourquoi il vous intéresse tant, cet artiste?
Parce qu'il est sympa.
Ouais, parce qu'il est sympa, c'est déjà très bien, parce qu'on rigole aussi beaucoup avec lui, donc ça c'est déjà très agréable. Non, pour être un peu plus sérieux, MPVIT est quand même pour spécificité de travailler avec des gens qui interrogent l'architecture, même si on ne fait pas que ça, c'est quand même un peu souvent quelque chose qui revient dans nos expositions. Et Pierre Labatte est de ces artistes qui font ça et qui le font très bien. D'avoir cette perception de l'espace. Et puis bah, sur le blocos, alors c'est marrant parce qu'on a fait deux projets avec des blocos avec Pierre, donc il y a quand même quelque chose qui revient. Oui. Et il a fait intérieur et extérieur. Et c'est un projet qu'on ne confie pas à n'importe quel artiste, parce que c'est un projet qui est assez ambitieux de travailler dans l'espace public, et puis qui n'est pas dans la neutralité du White Cube, dans un espace qu'on connaît tous. Parce qu'il y a une forte histoire aussi, un blocos, ça évoque quand même malgré tout quelque chose qui est de l'ordre de la guerre. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons-là, on avait envie de travailler avec Pierre, parce qu'on le suit depuis longtemps et qu'on trouve que ça faisait sens.
Alors cette exposition, cette proposition, elle a pour nom Le mélange des eaux. Alors peut-être Pierre Labatte a un petit décryptage sur cet intitulé.
C'est plus. Enfin, moi j'aime bien dire que les œuvres n'ont pas. C'est pas des titres qu'on leur donne, c'est des noms. Parce qu'un titre, c'est plutôt pour un emploi ou pour un grade ou un statut social. Donc c'est un nom. C'est un nom qui renseigne, mais qui n'est pas explicatif de l'œuvre. Le mélange des eaux, pour moi, c'est ce qui se passe quand, par exemple, un fleuve rencontre l'océan. Et il y a comme ça deux masses d'eau qui se touchent, qui se frottent, mais qui ne se mélangent pas. On le voit parce que souvent, les deux eaux n'ont pas la même couleur. En réalité, c'est parce qu'elles n'ont pas la même densité et tout ça. Enfin, densité, puis, de manière moléculaire, elles sont
pas la même composition.
Hein. Ouais. Mmh. Et en même temps, il n'y a rien de plus facile à mélanger normalement que de l'eau. Quoi. Mmh. Et donc, c'est un endroit où la mer, on va dire, est composée de deux mers. Quoi.
Alors, Romain le disait, on est sur le blocos du Hub, et puis la proposition artistique est à l'extérieur de ce bâtiment de béton fort robuste. Alors moi, je vais vraiment avoir une approche très descriptive, et après on ira peut-être dans l'analytique, bien sûr, et dans l'artistique. C'est une œuvre qui est composée d'outils de maçons. Alors peut-être que Pierre peut nous indiquer plus précisément de quoi il s'agit.
Alors c'est presque une trentaine de règles de maçon. Les règles de maçon, c'est des règles en aluminium qui servent à la construction et notamment à lisser les dalles de ciment. Ce qui est assez incroyable avec cet outil, c'est que c'est un outil qui ne coûte pas très cher et qui est une sorte de... Enfin, je pense que les auditeurs voient ce qu'est un mètre étalon. Et c'est une droite parfaite. Et qui, moi je suis toujours étonné, c'est des règles de 2 mètres, mais en prenant des règles de 3, 4 ou 6 mètres, à quel point ça peut rester droit sans plier. Quoi.
Il y a l'idée de la rectitude, il y a l'idée quoi,
de perspective. Du trait et puis de la ligne comme idée théorique. Quoi. Mm-hmm. Après, c'est des règles de maçon sur un bâtiment dont on voit encore les traces des planches de coffrage. Donc, il y a eu quand même une présence de maçons aussi là-dessus. En plus, les blocos, c'est quelque chose de... Enfin, sur la côte atlantique, c'est quelque chose de compliqué parce que très souvent, ça a été des Français qui les ont construits. Donc, c'est un ouvrage français, un architecte allemand.
C'était Toth, c'est ça
Oui, après, ça fait partie de toute la campagne du mur de l'Atlantique. Mais c'est pas. Enfin, quand on est petit, on se dit, tiens, c'est les Allemands qui ont fait des forts ou des châteaux forts.
Non.
C'était français. Et donc, la règle de maçon, on l'a peinte en blanc aussi pour la. J'allais dire, pour la rendre immatériel, mais en tout cas pour la rendre neutre, parce qu'autrement normalement elle est en aluminium brut. C'est très beau, par contre ça se salit énormément. C'est pas une œuvre que je veux, je dirais bien glitter, mais Faut que ce soit quand même un peu neutre. Quoi.
Alors, on va préciser pour celles et ceux qui n'auraient pas vu l'œuvre que ces règles des maçons ne sont pas disposées de façon rectiligne, mais on a l'impression qu'elles se tombent un peu les unes sur les autres.
Exactement, c'est exactement ça. Elles se tombent les unes sur les autres et c'est comme si elles s'évitaient. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est aussi le long d'une route où les gens, s'il n'y a personne, vont assez vite. Je vous invite d'ailleurs à être prudent quand vous irez voir l'œuvre. En contresens, il y a une voie de bus. Et c'est aussi comme quelque chose, comme, enfin, deux voitures qui rouleraient l'une vers l'autre. Elles s'éviteraient de la même façon que les règles s'évitent. Et en même temps, elles font aussi comme deux eaux qui se rencontrent. Elles s'approchent, elles se forment et elles se déforment l'une par l'autre. Mais elles se rencontrent pas finalement.
Elles se rencontrent jamais. On a l'impression qu'elles vont, se toucher, mais ça n'arrive jamais. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'affrontement des matières entre l'aluminium et le béton. L'aluminium, c'est quelque chose qui a une grande fragilité par rapport au béton. Est-ce que il y avait l'intention d'un sorte il y a l'évitement, mais est-ce qu'il y a l'affrontement en même temps que l'évitement?
Il y a des endroits où c'est très compliqué de faire des expos. Les blocos en font partie, non pas parce que c'est très dur à percer, mais parce que c'est des lieux qui, au-delà de leur charge historique, ont aussi une charge formelle qui est assez incroyable. C'est-à-dire que pardon, c'est quelque chose d'éminemment minéral, puisque c'est un énorme bloc de béton. Et en même temps, quand on s'en approche, on voit les traces des planches de coffrage. Et on voit les nervures des planches de coffrage. Et donc, on lit quelque chose du... Normalement, on utilise du pin ou du sapin pour faire ça. Et on lit le végétal dans le blocos. Alors là, ça devient un objet éminemment archéologique. C'est-à-dire que dans 4000 ans, ce sera à la fois quelque chose qui parlera des conflits, mais aussi de la nature, de la technique.
La technique aussi, oui, bien sûr.
Et en plus, il y a à un endroit un coquillage qui est incrusté dedans. Et donc, il y a même du minéral, du végétal, et il y a même de l'animal. Donc, la chose à voir, au final, si on s'intéresse un peu aux choses, c'est le blocos, la vraie expo, c'est le blocos. Moi, ce que je fais, c'est mettre... comment dire, comme un petit spot dessus pour qu'on regarde ça. Et puis aussi le quartier où c'est, quoi. Ce qui est quand même un quartier qui est, j'allais dire, en train de changer. Ça doit être un truc qu'on dit tous les 20 secondes à la radio.
Mais c'est vrai qu'il est...
Surtout à Nantes.
Oui, oui. C'est vrai qu'il est en pleine mutation, ouais. Effectivement.
Ce qui est assez étonnant sur cette question, c'est que c'est la première année, même si Perrine a un peu profité de ça, c'est la première année où le blocos n'est plus confidentiel à Nantes. C'était un blocos que les gens ne connaissaient pas parce qu'il était dans une rue où personne ne passait jamais. Et donc, c'était finalement des œuvres qui étaient faites pour les habitants du quartier. Et Michel Viard a même travaillé aussi sur cette question-là pour que les gens du quartier puissent la voir de dessus et qu'ils n'aient pas la même vision que si... donc, il a réellement géré deux points de vue, même s'il y en a plus que deux. Et du coup, Pierre arrive avec une autre approche qui se sert de la façade qui est la plus visible de la rue. Ce qu'avait commencé à faire Perrine l'année dernière. Et dans cet endroit-là, il y a toujours aussi le soir, puisqu'on est à Nantes, dans ce quartier, il y a un peu d'embouteillage. Et donc, du coup, finalement, il y a un public incroyable qui voit cette pièce maintenant. Surtout qu'en plus, que quand on veut aller sur l'île de Nantes, maintenant, on est presque obligé de revenir par là, pour revenir vers leur centre-ville. Donc, ça donne une visibilité beaucoup plus grande. Et maintenant, les gens commencent à connaître ce blocos. Donc, c'est plutôt bien.
Vu de loin, ces règles de maçon posé sur le mur de ce blocos qui donne sur cette rue qui est maintenant très passagère, hein, ce que nous disait Romain, on a l'impression aussi une sorte de passage clouté, de passage. Est-ce que l'idée du passage également, passage entre les époques, entre les techniques, entre le végétal, le minéral, l'animal, c'est quelque chose qui est prémédité dans ton approche artistique?
Prémédité, non. Je pense que c'est des choses qu'on a comme ça, comme on dit, une idée derrière la tête. C'est des choses avec lesquelles je travaille, je vis, mais que je mets dans mon travail sans en avoir une conscience totale. C'est vrai que le côté passage clouté apparaît, je pense qu'il apparaît encore plus en photo qu'en vrai. Les œuvres, il y a des choses qui se révèlent en photo qu'on ne voit pas En vrai, et aussi inversement. Mais, parce qu'aussi, c'est très, très graphique, quoi. Et ce qui est assez même bizarre, c'est que, avec la lumière qu'il y a là-dessus, parce que la façade est plein sud, c'est exactement comme les simulations qu'on avait préparées pour le dossier, sur un logiciel de retouche d'image que tout le monde connaît.
Qui commence par un P, je crois.
Oui.
Hein, c'est ça.
Et qui finit par un P.
Exactement.
C'est PP. Et c'est même assez bizarre de faire quelque chose pour de faux sur l'écran et que quand on est devant, ce soit exactement pareil. L'idée, c'est pas d'arriver à une sorte de perfection, mais c'est que ce soit tellement physique et immatériel en même temps que ce soit juste comme l'idée d'eux, quoi. Et ce qui est marrant, c'est aussi que j'ai vu ça hier, comme quoi on a des choses devant les yeux et on n'y pense pas, c'est qu'il y a donc les bandes blanches aussi sur la route, et qu'à un moment, je me suis dit, tiens, il faudrait aussi que celle-là, je les bouge.
Oui, c'est ça. Effectivement, les bandes blanches qui bornent la route, hein, le passage, effectivement.
Ce qui est très étonnant dans ce que tu dis sur la question du déplacement, et par rapport à la question de la photographie, c'est-à-dire où tu dis, effectivement, ça ressemble exactement, on pourrait presque même prendre la photo du projet pour en faire la photo de l'œuvre. C'est même perturbant, hein. Mais par contre, tu insistais sur le fait qu'il y ait le déplacement, et là, ça change tout. Parce que du coup, on arrive sur des idées de perspective, du mouvement, c'est le mouvement des voitures, de regarder en étant à l'intérieur en mouvement, de se déplacer, donc différents temps de mouvement, d'être obligé de traverser la rue aussi pour avoir une vision globale. Et ça, je trouve que c'est vraiment extrêmement, extrêmement réussi, et que ça joue pas juste en termes d'image, ce qui pourrait être le cas par rapport au projet, quoi.
Ce qui est assez bizarre, c'est que quand on la voit la première fois, on a l'impression qu'avec la perspective que ça fait, qu'elle est moins large que haute. On a l'impression vraiment que c'est écrasé. Et à un moment, je dis pas que c'est une expo qu'il faut faire en voiture, mais il y a quand même 95% des visiteurs qui la verront depuis leur voiture. Il y a quelque chose comme ça qui se déplie, qui devient très grand, parce que ça fait quand même 10 mètres de large, et qui va se retasser avec le...
Une sorte d'effet cinétique,
oui,
en quelque sorte.
Et qui est aussi le truc du mouvement, et nous, on comprend le mouvement depuis qu'on le photographie, depuis qu'on voit les choses arrêter. C'est-à-dire qu'on pourrait... En même temps, on montrerait 10 photos de l'œuvre, ce serait toujours moins bien que d'y aller en voiture sous la pluie. Là, ce serait toujours plus efficace, quoi.
Quand tu conçois cette œuvre, Le mélange des eaux, est-ce que tu penses à ce déplacement? On va s'arrêter dans quelques secondes, on va écouter un peu de musique, mais est-ce que tu penses justement à cet effet optique des personnes en voiture qui vont visiter cette œuvre furtivement?
C'est proportionnellement à un lieu habité. C'est comme si vous regardiez une peinture dans un couloir. Parce que on est très près, le plus loin on est à 6 mètres, quand on est en face, mais la première fois qu'on la voit, on est à 600 mètres. Et donc ça n'existe, si jamais, on en parlait hier, si jamais c'était en face d'une rue et qu'on la voit que de face, ce serait beaucoup moins bien. Mm-hmm. Donc c'est l'endroit où elle est le mieux.
On est toujours donc avec Pierre Labatte, artiste contemporain, qui propose Le mélange des eaux. C'est au Blockhaus du Hub Studio, c'est 21 rue Jean-Simon de Voruz à Nantes jusqu'au 20 septembre. On est aussi avec Romain Boulet et Sandra Doublet de MP Vite. Et puis, tu nous le disais, Pierre, il y avait un coquillage, hein, dans le Blockhaus.
Oui, dans le béton. Ouais.
Dans le béton, ça veut dire que la mer est à Nantes. Je faisais une transition un petit peu hasardeuse parce que la mer à Nantes, c'est le titre de Brome que nous allons entendre maintenant. Et on continue la conversation après, notamment sur la notion de mouvement du spectateur de l'œuvre par rapport à l'œuvre elle-même. Thank you.
la mer à Nantes. Nous entendrons les vagues rouler derrière les immeubles. Un jour, il y aura la mer à Nantes. Les cœurs ont été remplacés. Ne seront plus les mêmes. Nous longerons le nouvel estran. Usine, route, maison, décor, vestiges d'un autre temps. Les carcasses de voitures brûlées. Souvenirs.
Voilà, c'était La mer à Nantes, un titre signé Brome. On reste à Nantes, puisqu'à Nantes, jusqu'au 20 septembre, et ça a débuté ce 20 juin, eh bien, vous pourrez apprécier une œuvre signée Pierre Labatte. Le nom, c'est Le mélange des eaux. J'ai bien compris que ce n'était pas le titre. C'était le, voilà, une invitation de Manifestement Pain Vite, MP Vite et du collectif Hub. Ça se passe sur un des murs du blocos du Hub Studio, 21 rue Jean-Simon de Voruse, à Nantes, vers la prairie au Duc, hein, pour situer un petit peu. On est avec Pierre Labatte, l'artiste lui-même, et on est aussi avec Sandra Doublet et Romain Boulet de MP Vite. J'avais envie qu'on parle, enfin, on avait envie de parler de ton approche artistique, Pierre, c'est-à-dire que il y a l'œuvre elle-même, mais à l'œuvre participe, j'allais dire, le visiteur ou celui qui est le scrutateur de l'œuvre dans son déplacement. Ça fait partie d'un tout, finalement, dans ton approche.
Ouais, c'est bien que tu utilises le mot de tout. C'est Il y a une chanson de Miossec qui s'appelle, je crois, tout compte fait. Et c'est vrai que tout compte fait. C'est-à-dire que là, si jamais on essaye de faire quelque chose sans l'histoire du bloco, sans la route, sans le fait que ce soit plein sud, on va se planter. Pour avoir travaillé beaucoup comme technicien dans les musées et puis un peu dans les centres d'art et dans les galeries, il y a cette question de la hauteur d'accrochage qui est un truc très très dur parce que vous travaillez avec quelqu'un qui n'est pas très grand, vous lui dites la hauteur d'accrochage c'est 1m40, vous bossez avec un Norvégien, vous lui dites on va mettre 1m50. Comment décider d'une hauteur d'accrochage, c'est déjà décider d'une norme de la taille des gens. À un moment, il faut bien aligner les choses. Puis pour ceux qui connaissent mon travail, ceux qui iront voir l'expo, ils verront que j'aime bien aligner les choses. Mais oui, la place du spectateur, il y en a deux. Il y a celle, on va dire, sociale ou comment dire de celui qui vient voir l'exposition. Déjà, qui il est, c'est-à-dire moi, j'essaye toujours... J'ai pour but de faire quelque chose qui soit intéressant pour quelqu'un qui sorte de l'école du magasin de commissariat d'exposition à Grenoble et d'un paysan corse. Quoi. C'est très dur. Mm-hmm. C'est très dur. Enfin, le plus facile, c'est de faire quelque chose qui plaît ni à l'un ni à l'autre. Mais...
Oui, mais c'est grand écart parfois.
Et puis aussi, faire quelque chose pour quelqu'un qui lira le communiqué de presse, mais aussi pour celui qui ne le lira pas, pour quelqu'un qui vient... tard dans la journée, tôt dans la journée, c'est-à-dire que l'œuvre est juste qu'une façon de se mesurer à tous les paramètres qu'il y a autour. J'aime beaucoup et j'essaye que tous les montages d'exposition se fassent sur le lieu, au plus près du lieu. En plus, quand c'est pour passer des bons moments, comme j'ai passé avec Sandra et Romain cette semaine, c'est super. Mais aussi pour voir comment les gens vivent et appréhendent le lieu dans lequel l'œuvre va être montrée.
Alors, on a évoqué cette œuvre, hein, le mélange des eaux. On a expliqué cette disposition de règles de maçon. Elles font combien, celles-ci ?
Elles font 2 mètres.
2 mètres. On a l'impression qu'elles tombent les unes sur les autres, mais elles ne tombent pas les unes sur les autres. J'ai lu quelque part que finalement, tes œuvres, elles s'expérimentaient physiquement. C'est ce rapport au corps de celles et ceux qui vont voir l'œuvre qui est convoqué, finalement ?
Oui, c'est-à-dire que quand on va voir une exposition, à partir de quel moment on la voit, quoi ? Est-ce que c'est quand on rentre dans le musée ? Est-ce que c'est quand on rentre dans la salle ou est-ce que c'est quand on est en face ? Il ne faut quand même pas oublier que la plupart des œuvres, on les découvre souvent de biais et après on se met en face pour les regarder. Là, ce qui est incroyable au blocos du hub, c'est que c'est à 90% de la visite, c'est en biais. Puis on reste 2 secondes en face. Et une œuvre, c'est d'abord un cheminement du spectateur pour y arriver. C'est une lumière. Et le temps de la marche est très important pour moi. C'est-à-dire qu'il faut que le spectateur aille vers l'œuvre. S'il peut, passer à travers, pas comme le passe-muraille ou Harry Potter, mais par exemple pour l'œuvre qui était montrée au château de Kerpol, passer à travers entre 2 planches de bois, c'est important, mais c'est pas nécessaire ou obligatoire. Mais il faut qu'il y ait juste le bon écart pour que les gens puissent y aller sans y être invités.
Au château de Kerpol, c'était donc des... comment dire des, je le dis avec mes mots,
oui, oui.
De planches de bois qui étaient, qu'on pouvait imaginer rectiligne, mais que tu avais finalement incurvé l'alignement,
c'est ça.
Perturbé l'alignement finalement. Il y a l'idée de la perturbation dans ton approche d'ailleurs.
Oui, et puis en essayant qu'elle soit, non violente, peut-être encore avec un peu de rêve à la Gandhi, mais qu'on peut changer les choses sans y aller trop fort ou crier trop fort. Et puis d'une toute petite perturbation qui remet en cause en réalité beaucoup de choses si on commence à s'y intéresser.
Au Palais de Tokyo, il y avait Affinity, une œuvre. Alors j'aimerais que tu puisses la décrire justement, parce que ça montre bien cette perturbation de l'espace, justement.
C'est comme beaucoup de mes travaux, c'est une œuvre qui est peinte en blanc avec le même blanc que le lieu d'expo, c'est-à-dire c'est le même la même marque de peinture. Et avec le même rouleau, histoire que le spectateur ne soit pas impressionné par un matériau riche ou bizarre. Mais comme c'est la même physicalité que le lieu, il y a juste la forme qui compte. Et donc c'est un carré de contreplaqué qui est suspendu au plafond, qui est à 1m40 de façon à ce que, le bas est à 1m40 de façon à ce qu'on soit, quand on est très près, on est vraiment dedans, quoi. Et en bas, c'est un quart d'ellipse, et en bas, c'est complètement vertical, et en haut, c'est complètement horizontal. Donc c'est un objet qui est à la fois un mur et un plafond, en même temps, dans sa... Et après, ce que j'espère, c'est que le spectateur va regarder toutes les rencontres entre les murs et les plafonds et dire « c'est hyper violent, 90 degrés
». D'accord, oui. On peut parler d'Entaille aussi, c'est une autre œuvre.
Oui.
C'est Doum Doum ?
Doum Doum, oui.
Doum Doum, c'est ça. C'est une entaille dans le mur.
Une entaille dans le mur, je crois que c'était Simon Entaille, je n'ai pas revisé. Là, c'est pareil, c'est l'œuvre, ce qu'on voit, c'est la fente dans le mur, qui au centre fait quand même juste 5 cm de côté. En réalité, c'est tout le mur qui est refait en entier. Et qui est comme ça, comme écarté par quelque chose qui serait derrière. Et puis en même temps, il y a une espèce de forme une forme d'étoile comme ça qui pourrait briller dans le ciel quand le soleil se couche. Et puis aussi, je m'en suis rendu compte peut-être 4 ou 5 mois après, c'est que c'est une croix, quoi. J'ai fait une peinture religieuse sans le savoir.
Et voilà.
Ouais, le cruciforme, il est de l'ordre du cruciforme aussi.
Il y a François Aubard, qui est un critique d'art, j'imagine, qui a parlé d'œuvres te concernant totalement soumises à leur contexte de monstration. Le contexte de monstration, c'est plutôt le White Cube, justement.
C'est le White Cube parce que. Parce que c'est le White Cube parce que je suis français, né en 1977 et que je suis dans l'art contemporain. J'aurais pu faire la même œuvre en 1910, mais elle n'aurait pas été blanche, puisque si je me trompe pas, énormément de lieux d'exposition étaient peints en gris parce qu'on pensait que peut-être à tort ou à raison, mais que les peintures ressortaient mieux sur un fond gris. Donc je sais pas s'il y avait un grey cube à l'époque, mais
il faudra rechercher. Sandra Romain.
Mais si dans
il y avait une norme en tout cas. Il y a souvent des normes où même la peinture ancienne était beaucoup accrochée sur des murs en couleur. Ça se fait toujours beaucoup dans les pays anglo-saxons ou contextualisé avec le mobilier. Ça aussi c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les musées anglo-saxons. Donc il y a souvent des époques, une norme d'accrochage. Après, il y a beaucoup d'artistes qui, justement, essayent de ne pas être dans cette norme, puisque le principe de l'art, c'est quand même aussi du détournement. Et je pense que Pierre, c'est quelqu'un plutôt qui englobe la chose. Et du coup, ça fait que son propos est souvent très juste, parce que du coup, il parle du lieu sans être obligé de le... Il s'y confronte, mais sans être obligé de l'attaquer. Et c'est plutôt par la méthode douce qui vient... en révéler peut-être sa non-neutralité, peut-être aussi son caractère d'essence. Et ça, je trouve que c'est très juste dans son travail.
Moi, je ne suis pas artiste, ça m'intéresse, l'art contemporain, moi, en l'occurrence, dans nos rendez-vous avec MPVIT. J'ai envie de rentrer dans ta tête, Pierre. Ça ne va pas faire mal. Mais comment on imagine, par exemple, une œuvre comme celle que l'on pourra voir et apprécier sur le Blockhaus, un des murs du Blockhaus de Hop Studio à Nantes, comment ces règles de maçon sont venues dans ton imaginaire, dans ta créativité? Comment ça se passe d'un point de vue cognitif? Est-ce qu'on peut l'expliquer, ça?
On pourrait, ce serait peut-être un peu long, parce que c'est très long dans le temps. C'est aussi l'œuvre au château de Kerpol qui a donné cette œuvre ici à Nantes. Faut savoir que l'œuvre de Kerpol, à la base, c'est une maquette que j'ai pas finie, c'est-à-dire que je voulais faire un grand mur qui s'effondre et qui se redresse. Pour faire la maquette, j'ai fait une structure sur laquelle je voulais venir coller des morceaux de papier qui seraient le contreplaqué ou le placo que j'aurais utilisé. Et puis donc j'ai mis ces structures et j'ai regardé, je me suis dit on arrête, on va boire un café, on revient, parce que là, donc ça vient de là. Après, le mur qui tombe, d'où ça vient, non, je crois que c'est comme quand, pendant la pause musicale, là, je parlais du tir à la carabine, parce que j'ai fait un an de tir à la carabine de compétition quand j'étais au au lycée, je crois.
On va se méfier. Hein. T'es pas bien armé.
Non, mais je pense que dans ce genre de sport où le tir à l'arc, on décide de tirer à un moment où on se dit que c'est maintenant qu'il faut faire. Et là, c'est un peu pareil. On réfléchit à des choses, on a des choses en tête, des images. Alors, le problème de notre société, c'est qu'on en a beaucoup, beaucoup trop d'images. Je me force de plus en plus à ne pas regarder les blogs sur Internet d'expo et tout, parce qu'en tapant un peu rapidement sur la barre espace, on peut voir, je pense, 60 œuvres, peut-être 60 œuvres à la minute. Ce qui est complètement stupide.
Ça veut dire qu'on a envie d'aller vers une épure, finalement, vers une épreuve. Si je parle de ton œuvre, encore une fois, je suis pas un spécialiste, mais si je parle de sculpture minimaliste, est-ce que ça te va? Est-ce que ça t'offense? Est-ce que je suis à côté de la plaque?
Ah bah, si j'ai à la rigueur, je dirais, avec beaucoup de respect pour toi, Pascal, c'est des mots. Et ça, les mots, on en fait ce qu'on en veut. Il y en a aucun qui est vraiment vrai, il y en a aucun qui est vraiment faux. Même les minimalistes, je crois qu'ils se disaient pas minimalistes. Mais enfin, faut imaginer que, je pense, au Moyen-Âge, les gens voyaient une image par semaine, peut-être. Au début du XXe siècle, ils en voyaient, on va dire, peut-être 20 par jour. On en voit peut-être 100 par heure maintenant. Et c'est pas bon. Alors, faut essayer d'en... C'est très dur d'en mettre le moins possible.
Mmh. Il y a une notion d'expérimentation à chaque fois, forcément, par
ouais.
contre.
Bah, ouais. Pour bien connaître quelque chose, il faut y passer du temps. Et puis, quand on est petit, qu'on démonte quelque chose pour le comprendre. Quoi. Et puis, c'est pour ça que c'est important que le montage se fasse sur place pour tout expérimenter et puis faire des choix qu'on fait quand on connaît bien le lieu. Moi, quand je travaillais dans les musées ou dans les galeries, j'avais beaucoup de mal avec les gens qui arrivaient la veille du vernissage pour accrocher un tableau. Et ils arrivaient et en 5 minutes, ah bah, ça va être là. Alors que celui qui, par exemple, la femme de ménage, elle sait que là, il y a un ray de lumière qui tombe dessus fin septembre à la fin de l'expo et que ce sera dégoûtant. Elle sait qu'en réalité, si tu mets la peinture là, quand tu rentres, t'as pile le poteau devant, et ça, on sait qu'en passant du temps et aussi en marchant, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure.
Là, on a parlé tout à l'heure de Doom Doom, d'Affinity. Là, on était dans le Way Cube. Là, on a une proposition à l'extérieur du cube qui est ce blocos. Est-ce que il y a eu un choix à faire sur le mur sur lequel est ta proposition artistique? Est-ce que tu as pu avoir le choix de ce mur? Comment ça s'est déterminé tout ça? Et qu'est-ce que ça implique d'être à l'extérieur du cube?
Bah, c'est... Bah, moi, je trouve que plus j'y bossais et plus je... sur le projet, plus je me demandais, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que c'est quand même comme une sorte de... Il y a deux petites portes, une à droite, une à gauche, mais qu'on voit pas souvent d'ailleurs sur les photos. Bah, on est dans le vrai monde, quoi. Ça... Faut enlever l'herbe qui a poussé en bas et puis ça sent le gaz d'échappement, quoi.
C'est un autre paramètre de l'œuvre, finalement, involontaire.
Ouais. Non, mais c'est jamais très simple de toute façon. Les pièces en extérieur, on voit aussi beaucoup de pièces en extérieur d'artistes qui sont de très bons artistes et puis qui sont pas bons en extérieur. Ouais. C'est pas voilà, c'est dans le vrai monde, c'est très juste ce que tu disais, Pierre. Et puis vraiment de penser le déplacement par rapport à une voiture. Alors il y a un artiste célèbre qui a fait ça, j'espère ne pas dire bêtises, mais je crois que c'est Bertrand Lavier qui disait qu'en fait la meilleure peinture, c'est une peinture d'autoroute, c'est les panneaux signalétiques, puisqu'elles étaient faites pour être vues à 300 km/h. Passer ce constat, je trouve ça assez drôle.
On passe moins vite à devant l'œuvre
de Pierre. Mais en tout cas, oui, c'est une donnée que si, comme le disait Pierre, si l'artiste ne prend pas en compte, ça va sans doute aller assez mal, quoi.
Il y a les dimensions du temps également, parce que quand on est à l'intérieur du cube, évidemment, la monstration, elle est aux heures d'ouverture. Mm-hmm. Là, tu as pendant un mois ton œuvre 24 heures par jour qui va être montrée, finalement. Est-ce que ça, on y pense ou...
J'aime bien justement ce que tu disais hier par rapport à ça. Tu disais, finalement, l'expo, elle va commencer demain. On était quand,
vous étiez jeudi, c'est ça?
On était jeudi et c'était comme en, l'heure de du vernissage. Il y avait je sais pas 50 personnes présentes. Et en fait, effectivement, dans une expo traditionnelle, si on peut parler de tradition, il y a un vernissage. Il y a 50, 100, 200, 500 personnes qui viennent. Et après, souvent, il n'y a pas grand monde pendant l'expo. La grosse fréquentation se fait au vernissage. Alors que là, c'est un peu le contraire.
Ouais. Et puis, bah, j'y ai pensé. Non, ce qui est bien, c'est de penser que, par exemple, ce soir, lundi soir, il y a peut-être quelqu'un qui va passer là à 23h. Et qui va. Et puis là, il n'y a pas un panneau, qui... très gros panneau, qui dit attention, expo, attention.
Elle n'est pas éclairée, l'œuvre, par exemple.
Non, mais ouais. Bah si, par celui qui vient avec ses phares de voiture.
Avec ses phares de voiture.
Et donc, ouais, c'est pas... si ça, là, c'est vraiment très dur, parce que faut, si ça marche pas, ça marche pas. Parce que les gens ont pas forcément... quand on rentre dans un musée, on se dit, attention, il va falloir réfléchir, il va falloir trouver les symboles, il va falloir se laisser aller, tout ça, machin. Là, si la personne pense à son boulot, qui l'embête, qu'elle a fini tard... qu'elle est contente en même temps parce qu'il n'y aura pas d'embouteillage à 23h, mais qu'il faudrait peut-être qu'elle fasse le plein. Là, si ce n'est pas bon ou comment dire, percutant, je n'ai pas envie de dire percutant pour des gens qui sont en voiture, mais bah ouais. Là, on passe à côté. Quoi. Mmh. On passe à côté, mais c'est aussi... Moi, je me suis toujours dit que si jamais, pour une expo d'une durée classique d'un mois ou deux, s'il y a eu trois personnes à avoir réellement une forte émotion, c'est complètement gagné. Quoi.
Sauf qu'on ne le sait jamais.
Et non, si on le sait, ouais, pour faire un rapide calcul, depuis 8 ans que je commence à bien exposer, j'ai 4 rencontres comme ça de gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit « je suis désolé, moi j'y connais rien, je me trompe sûrement quand je regarde le travail que vous montrez, j'ai rien compris mais je suis hyper ému ». Et ça, c'est, ça vaut de l'or. Ça,
ouais, c'est... J'imagine. Donc, exposition, on peut dire exposition ou monstration, tiens, pour cette œuvre.
Bah, c'est compliqué, parce que là, mes parents me demandaient, qui sont au Bono, à côté d'Auray, me demandaient, vous êtes beaucoup dans cette exposition? Je dis, bah non, il n'y en a qu'un, c'est moi. Et il y a beaucoup d'œuvres, bah non, il n'y en a qu'une. Et oui, c'est une exposition parce que c'est exposé, quoi.
Alors, donc, ça a commencé le 20 juin, hein, donc sur un des murs de ce bocaux du Hub Studio à Nantes. On pourra voir donc jusqu'au 20 septembre. Alors, des milliers de visiteurs, parce que chaque voiture qui passe, chaque passant est un visiteur potentiel. Donc, le temps, un des ingrédients, justement, cette œuvre, au-delà du bocaux, au-delà de ses règles de maçon, au-delà de l'approche artistique elle-même. On arrive à la fin de notre entretien. Pierre, les projets, ça va être quoi? J'ai bien compris finalement que c'est un cheminement ton approche. Hein,
oui.
Ce qu'il y avait dans le château et finalement est un amont par rapport à ce qu'on pourra voir ici. Quels seront tes prochains souhaits, tes prochaines propositions?
Ah, je ne sais pas encore. J'ai des pistes. Après, ça dépend de plein de choses. Normalement, je devrais avoir une exposition en décembre à Thessalonique, en Grèce. Et on peut pas faire... Enfin, si on prenait la Grèce depuis 2000 ans, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, il va falloir que je potasse un petit peu.
Oui, le contexte historique, là, quelque chose est là, quoi.
Et là, ouais, donc, il va falloir que je travaille, mais c'est un réel plaisir.
Bon, ben... On essaie de se tenir informé et puis évidemment, tu es le bienvenu pour revenir ici. Question des projets, d'MP Vite, on arrive à l'été, Sandra et Romain. De toute façon, nous, la saison prochaine, on se revoit parce que nos rendez-vous avec l'art contemporain, on y tient et on y tient tous. Donc, on se revoit trimestriellement et mensuellement, ça va être ça, l'intention, le programme, Sandra.
Oui, au mois de septembre et en attendant, vous recevrez prochainement la newsletter de l'été pour avoir toutes les informations sur le vernissage. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de mpvite.org.
Voilà, puis moi je mets le lien dans le programme des émissions. Romain, toi qui es aussi artiste, tu es en création en ce moment ou alors tu œuvres dans plusieurs structures dédiées à l'art contemporain? On parle de millefeuilles, de choses comme ça, mais ça va être quoi tes projets dans les semaines qui viennent?
Un voyage, normalement en Norvège.
Ah oui, pas un voyage à Nantes?
Non, non, pas du tout. Plutôt un voyage pour aussi pour laver un peu l'année qui a été très très intense et puis essayer de faire un peu de vide dans des grands paysages incroyables. mais c'est ça qui, moi, c'est ça qui me plaît pour repartir. Et puis des projets Bordeaux, peut-être un projet à Bruxelles sûr. Donc voilà, ça. Le carnet d'adresse, c'est pas, l'agenda n'est pas encore rempli, mais ça commence déjà.
Ça commence à se remplir.
Et puis après, il y a des expos MPV, il y a deux expos qui vont ouvrir en octobre-novembre. Et puis, avec Millefeuille, des conférences, voilà, il y a plein de choses qui vont se passer, qui vont être bien. Et puis, je tenais aussi à remercier Pierre, parce qu'on a passé une semaine incroyable et on sait pourquoi on fait ça. Voilà, ça fait partie du fait d'avoir des échanges et de pouvoir réfléchir sur quelque chose qui nous plaît et que ça plaise à d'autres personnes qui viennent le voir. Ça, je pense qu'on fait quand même un métier formidable.
Très bien. Merci à vous trois. Merci Pierre pour
merci
la rencontre, à Sandra, à Romain. Et puis merci à Marjolaine qui a réalisé cette émission. Et j'ai bien noté qu'il y avait beaucoup de projets, autant de possibilités de moments de radio ensemble entre nos deux structures. À bientôt Pierre.
Avec
bon vent.
Plaisir.
Merci
à vous aussi. Au revoir. Thank you.